Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le journal avec Sophie Orange. Bonjour Sophie.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, 300 000 personnes attendues ce soir sur les Champs-Élysées pour fêter la nouvelle année.
Et 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France. Une fuite digne d'un roman policier. Carlos Ghosn est arrivé au Liban. Il ne veut plus être l'otage d'un système japonais qu'il juge partial. Son avocat japonais se dit abasourdi. Nous sommes désormais 66 500 000 habitants en France, chiffre de l'INSEE. Le Nord est le département le plus peuplé, parole de ch'ti à suivre. Et puis gardez-le, ce sera le dernier. L'annuaire téléphonique est distribué une ultime fois cette année après près de 200 ans de bons et loyaux services.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Vous serez sans doute nombreux à faire la fête ce soir. Dans quelques heures, nous serons donc en 2020.
Soirée entre amis, en famille, à danser, à manger. Une pensée également pour ceux qui resteront seuls. À Paris, 300 000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées. Spectacle son et lumière sur l'Arc de Triomphe. Puis feu d'artifice au moment des 12 coups de minuit. Dans la foule, forcément, des touristes, beaucoup de touristes que vous avez rencontrés pour RTL, Fabrice Hawkins. Ils n'ont pas été refroidis par les grèves.
Au pied du Trocadéro, Victoria, qui vient d'Australie, prend la pause devant le carrousel. Elle a un mot à la bouche.
Amazing.
Magnifique, parce que ce réveillon à Paris se prépare depuis des mois. Alors forcément, elle est heureuse.
I had tears in my eyes.
J'ai les larmes aux yeux, je suis émue. Franchement, ça va être génial. C'est incroyable de voir la Tour Eiffel.
Marc aussi a les yeux qui pétillent pour sa première à Paris, mais à cause des grèves, il va devoir prendre sa voiture et ce n'était pas prévu.
Je pense que de base, on serait venu en transport en commun, mais étant donné qu'il y a pas mal de soucis en ce moment, c'est vrai qu'on a préféré faire autrement.
Un peu plus loin, assis sur un banc, il y a Laurie et son fils Théo. Ils sont venus de la Drôme sur un coup de tête.
Ça fait une semaine là qu'on statte et du coup, on s'est dit, bah allez, pourquoi pas Paris, les enfants seront contents.
Et vous voyez les images de la grève, des métros bloqués?
Non, mais après, on regarde pas trop les infos, nous, donc voilà.
Où est-ce que vous serez ce soir?
On va faire sur les Champs-Élysées. On va faire la fête.
Et en attendant de faire la fête, Laurie et Théo chauffent leur voix.
3, 2, 1,
bonne année!
On n'est pas encore tout à fait, hein, encore quelques heures.
Il répète, c'est bien.
Attention, en tout cas dans le métro parisien, seules les deux lignes automatiques rouleront une partie de la nuit jusqu'à 2h15 seulement. Pour le reste, ce sera bus ou marche à pied. Et prudence si vous prenez le volant. Selon le dernier baromètre de la sécurité routière, un Français sur deux n'a pas prévu de solution pour rentrer après la fête. Le mieux, c'est de désigner un SAM qui ne boit pas. C'est comme ça en tout cas que sont organisés Amel, 18 ans, et ses amis.
On va faire une soirée chez une pote, puis comme on est beaucoup à rentrer et qu'on va être beaucoup aussi et qu'il y aura sûrement beaucoup d'alcool, vaut mieux qu'il y en ait un qui soit prévoyant pour tout le monde, qu'il nous ramène chez nous, qu'il nous pose, qu'il voit si on va bien. C'est normal. Faut un Sam, quoi. Il y en a un qui boit pas, comme ça on est sûr qu'on revient tous vivants chez nous, quoi. On a tiré à la courte paille. Et il nous régule aussi, enfin, histoire qu'on boive pas trop et que ça parte pas vraiment en cacahuète. Enfin, on arrive en soirée, nous on pose tous nos téléphones et nos clés de voiture dans une caisse. Et on la ferme et on y reprend le lendemain où c'est celui qui boit pas qui distribue les téléphones et les clés. Et c'est lui qui juge si on est apte à repartir ou pas. Surtout pour le nouvel an. On peut pas faire autrement. Enfin, c'est trop dangereux en vrai. Quand il y a autant d'alcool, non, on peut pas.
Voilà, c'est bien organisé.
Raisonnable. Ouais. Un témoignage recueilli par Anerissa Emani pour RTL. Et avant de faire la fête et de trinquer, vous serez des millions à regarder, à écouter sur RTL les vœux du président de la République en pleine contestation de la réforme des retraites.
RTL Matin, 7h33.
Carlos Ghosn l'a confirmé à 5h de ce matin. Il est arrivé au Liban, c'est son pays d'origine.
Un communiqué de quelques lignes où l'ancien PDG de Renault-Nissan justifie sa fuite. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial. Je n'ai pas fui l'injustice. Je me suis libéré de l'injustice. Incroyable rebondissement dans ce feuilleton à épisodes. Selon des médias libanais, le patron déchu serait arrivé par jet privé via la Turquie. Un projet tenu secret, mais qui n'étonne pas l'un de ses proches, Philippe Ris, joint il y a quelques minutes par Vincent Serrano.
Non seulement je le comprends, mais je l'approuve. Il était évident que Carlos Ghosn n'allait jamais obtenir un procès équitable. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, il a choisi la seule possibilité qui lui restait pour ne pas passer 15 ans en prison sur des accusations non fondées. En dehors du Liban, où il s'est réfugié pour des raisons familiales, mais aussi pour des raisons légales, puisqu'il n'y a pas de traité d'extradition entre le Liban et le Japon, vous aurez constaté que tout le monde a laissé tomber Carlos Ghosn. À commencer, bien entendu, par le gouvernement français, qui a fait, comme je l'ai toujours dit, le service diplomatique minimum. Si les Japonais veulent donner les garanties d'un procès équitable, je dirais, la balle est dans leur camp.
L'un des amis de Carlos Ghosn, joint par Vincent Serrano pour RTL. Comment l'homme d'affaires a-t-il pu quitter le Japon alors qu'il était censé ne plus avoir de passeport et être étroitement surveillé? C'est la question qu'on se pose ce matin. Philippe Dova, vous suivez cette affaire depuis plusieurs mois pour RTL.
Oui, une assignation à résidence et des conditions très strictes de libération sous caution, selon lesquelles Carlos Ghosn n'avait notamment pas le droit de s'éloigner plus de 2 nuits de Tokyo sans autorisation du procureur. Tout déplacement à l'étranger lui était formellement interdit et les abords de sa résidence étaient surveillés 24 heures sur 24 par des caméras. Ce matin, les médias japonais ont mis un certain temps à officialiser la nouvelle et tous s'interrogent sur les conditions de cette grande évasion. La chaîne NHK cite les médias européens et américains ainsi qu'un témoignage anonyme recueilli au Liban selon lequel un homme ressemblant à Carlos Ghosn était arrivé à Beyrouth hier à bord d'un jet privé et sous une autre identité. Information confirmée dans la version en ligne du quotidien The Meninchi, qui rappelle au passage la visite officielle du ministre des Affaires étrangères japonais au Liban début décembre. Japan Today souligne pour sa part que si la fuite était confirmée, Carlos Ghosn pourrait dire adieu aux 12 millions d'euros de caution versée, mais la liberté n'a pas de prix. Enfin, lors d'un point presse improvisé, l'avocat de Carlos Ghosn, Junichiro Hironaka, s'est dit surpris de cette fuite. L'avocat n'a pas d'autre information que celle qu'il a pu lire dans la presse. Il n'a pas revu son client depuis le 25 décembre.
Les précisions de Philippe Dova pour RTL.
Nous sommes de plus en plus nombreux en France, 66,5 millions d'habitants.
Soit 1 300 000 de plus en 5 ans, selon les chiffres de l'INSEE de 2017. Les régions les plus attractives sont la Corse, l'Occitanie, les Pays de la Loire et Rhône-Alpes-Auvergne. Le Nord reste le département le plus peuplé de France, 2 600 000 habitants, devant Paris et les Bouches-du-Rhône. C'est vrai, Franck Hanson, il fait bon vivre chez vous dans le Nord.
Oui, de Maubeuge jusqu'à Dunkerque, en passant par Lille, le Nord, territoire très étendu et urbanisé, devrait rester encore longtemps le plus peuplé, avec ses habitants qui s'y sentent bien, plutôt décidés à y fonder une famille. Car oui, il y fait bon vivre, selon ceux que nous avons croisés.
Il ne fait pas toujours beau chez nous, mais regardez aujourd'hui, le soleil brille. Il y a quand même des avantages. Lille, c'est une belle ville. Il n'y a peut-être pas autant de choses qu'à Paris, mais on arrive quand même bien à se débrouiller ici.
Les gens du Nord, ils sont chaleureux.
La convivialité de la région et puis la beauté des paysages. On est bien, on a envie de construire notre famille et puis de penser à l'avenir du bon côté.
Pour autant, on ne se bouscule pas pour s'installer. Les clichés ont la vie dure. Et à part sur la capitale lilloise, le département reste peu attractif, confirme François Chevalier, directeur adjoint de l'INSEE Hauts-de-France.
C'est quand même un département qui a été très industriel, avec une tradition de familles nombreuses, etc. Et ce qui plombe finalement la dynamique démographique dans les départements du Nord et de la région, c'est le manque d'attractivité de notre région. Il y a moins d'arrivées, effectivement, que dans d'autres régions. Un phénomène qui est observé depuis des décennies. Les gens vont s'installer dans l'endroit où il y a le soleil et la mer. Et donc, pour le coup, on ne joue pas dans le même cours avec d'autres régions qui sont, on va dire, mieux dotées.
Et c'est souvent le changement de travail qui fait partir les gens du Nord, parfois avec regret.
Franck Hanson, dans le Nord pour RTL.
Et voilà, Eiffage remplace les Chinois dans le capital de l'aéroport Toulouse-Blagnac.
Le numéro 3 français du BTP a payé plus de 500 millions d'euros. Une belle opération pour Casil, le groupe chinois qui réalise au passage une plus-value de 200 millions d'euros.
Ah oui.
Depuis plusieurs mois, les collectivités locales accusaient l'actionnaire chinois d'avoir une gestion purement mercantile. Eiffage promet d'être un partenaire de long terme, mais cela ne rassure pas le collectif anti-privatisation.
On devait normalement avoir un repreneur qui s'y connaisse. Or, Eiffage n'y connaît rien en gestion d'aéroport. De même que Casil Europe n'y connaissait rien non plus. Donc c'est la deuxième boulette, à savoir qu'on donne à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves la gestion d'un gros aéroport. Et surtout le fait que cet aéroport qui est dans la ville ne peut pas être traité comme un aéroport de campagne et qu'on doit le contraindre et que je ne pense pas que l'actionnaire qui vient de payer très cher cet aéroport n'ait pas envie, au contraire, de le faire grossir. Nous, on attend, on compte les points, mais on sera là pour dire à l'actionnaire, attention, Eiffage, si vous faites n'importe quoi, on vous le fera savoir.
Chantal Berdemander, membre du collectif anti-privatisation de l'aéroport de Toulouse.
Alors rappelons-le, hein, c'est la fin du bon vieux Potin. L'annuaire est devenu ringard, semble-t-il, et il est supplanté par Internet.
On en a tous un à la maison, il aura bientôt sa place dans un musée. 57 millions d'exemplaires ont été distribués en 2007, seulement 9 millions l'année dernière. Les pages jaunes ont un an de sursis, mais pour les pages blanches, c'est fini, Julien Fautra.
Si Gérard a bien remplacé son vieux téléphone à cadran marron, son Potin, lui, trône toujours sur le petit secrétaire à l'entrée de sa maison bretonne.
J'ai même des anciens, hein. On dit tiens, notre Potin. Pas parce que l'Internet, c'est pas notre génération, hein. On est un peu perdu avec tout ça.
Le premier annuaire date de 1796. Le Bottin, du nom du statisticien Sébastien Bottin, recense d'abord seulement des commerces parisiens. Les pages jaunes naîtront un siècle plus tard.
Eh bien, comme vous le savez, le nombre de téléphones augmente en France. Nous devons imprimer cette année-ci 16 millions d'annuaires.
L'annuaire s'impose dans tous les foyers, mais il est parfois détourné. Il peut aider à caler un meuble. Et pour Nicole, c'est toujours un marchepied.
Mets ça sur la chaise et puis pour accéder aux placards qui sont toujours trop hauts.
Le Bottin a longtemps résisté à la disparition des cabines téléphoniques. Il y en avait un dans chacune. Le Minitel, il l'a enterré. Mais en revanche, Internet a été plus fort.
Tout à fait sympathique, à feuilleter, un peu comme un dictionnaire. Mais c'est vrai que maintenant, avec Internet, que les jeunes...
Disparaît le Bottin, est-ce que vous savez ce que c'est?
Non, c'est pas.
C'était pas une sorte de livre où il y avait les noms de famille des gens et on avait le numéro à côté.
Je savais pas, moi.
Un autre Bottin, une autre institution, elle résiste. Elle a même un certain succès, le Bottin mondain, l'annuaire des grandes familles françaises.
Reportage de Julien Fautra pour RTL.
Et c'était donc le journal de Sophie Orange.
RTL.